Xavier. Donc c'est un plaisir de revenir parmi vous, toujours renouvelé. Et également, c'est stimulant parce que ce sont des questions sans cesse révisées. L'histoire des origines du christianisme fait l'objet d'une révision conjointe des historiens des religions, des universitaires, des historiens du judaïsme et des théologiens ou des exégètes. Alors évidemment, c'est une gageure de présenter ce que j'ai appelé, moi, l'émergence. J'ai pris le terme d'émergence du christianisme pour signaler que c'est quelque chose de nouveau, que l'apparition du christianisme dans le monde antique, donc, disons, parce que quand l'Empire romain se fonde, je ne vais pas dire avant ou après Jésus-Christ, ça n'a pas de sens, évidemment, mais donc quand l'Empire romain se fonde au tournant de notre ère. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est l'émergence d'un fait religieux nouveau, parce que c'est la fondation d'un monothéisme nouveau, trinitaire et non plus strict monothéisme, comme l'est le judaïsme. Et ce dernier point, le plus difficile, on n'en parlera qu'à la fin, parce que c'est celui justement qui a été le plus difficile à énoncer et à identifier. Et il faut attendre les grands conciles donc du 4e et 5e siècle pour y parvenir. Donc on finira parce qu'il devrait, en termes fondateurs et doctrinal, être le début. Donc l'émergence est quelque chose de nouveau, un monothéisme trinitaire, on finira par cela, et une religion universelle qui est issue donc de la prédication d'un juif dans une petite province du monde antique en Judée. Donc évidemment, ça paraît une gageure de traiter de ça en une heure. Aussi, il faut chercher un fil directeur. Et celui que je vais prendre ce soir, parce qu'il est consensuel, entre historiens, agnostiques, croyants, juifs, chrétiens, il est vraiment consensuel, c'est que cette émergence est une construction. C'est-à-dire qu'il faut se détacher de l'idée qui est peut-être encore trop dans les esprits modernes, que j'ai caricaturé, excusez-moi, mais ce sera peut-être plus frappant, que Jésus est monté au ciel en laissant un testament bien fait et les choses bien organisées sur cette terre, avec une doctrine bien mise en place dans des textes qui sont la Bible des chrétiens et un modèle d'organisation, l'Église, qui n'a fait finalement qu'à se répandre, à se diffuser de plus en plus loin, donc dans le monde. Et c'est cette vision donc d'une doctrine et d'un modèle communautaire, ecclésial, prédéterminé sur lequel revient à la fois l'historiographie et la théologie actuelle. Et que je voudrais vous présenter donc cette révision en deux points successifs. D'une part, en revenant sur les textes fondateurs, qu'est-ce que c'est que la Bible des chrétiens? Qu'est-ce que c'est que les livres, la collection de livres qui portent leur religion? Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc, ces questions issues des sources, donc, qui font travailler ensemble des gens très différents, et qui présente aujourd'hui une vision assez différente des origines chrétiennes. Donc, commençons par la présentation des textes fondateurs. Qu'est-ce que c'est que la Bible des chrétiens? Et vous voyez donc que j'ai pris deux présentations pour montrer justement combien il y a construction. Alors, la Bible des chrétiens, pour beaucoup d'entre vous, pour tous, je pense, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, donc, signifie qu'elle s'enracine dans la Bible juive, qu'elle a une matrice juive indéniable et qu'elle n'a jamais récusé, quels qu'aient été ensuite les rapports entre chrétiens et juifs. Et le Nouveau Testament, donc, les livres fondateurs, les livres de révélation propres aux chrétiens. Premier point, cette Bible juive, qui est la matrice du christianisme. Alors oui, peut-être quand même revenir sur un mot, mais si vous avez déjà une conférence sur le judaïsme, c'est peut-être pas la peine, que la Bible, c'est une collection de livres. Hein. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire de A à Z, même si des lectures théologiques de ce type sont possibles, c'est une collection de livres. Et historiquement, c'est bien comme ça qu'il faut la considérer. Donc, cette Bible juive, qui est la matrice du christianisme, ce n'est pas la Bible hébraïque, ou plutôt ce n'est pas seulement la Bible hébraïque, c'est la Bible en grec, dont on a dû vous en parler, la Bible des Septante. C'est-à-dire que la matrice juive du christianisme, c'est le judaïsme de diaspora, les communautés de diaspora qui utilisaient la Bible en grec. Et non pas donc le christianisme judéen, même si Jésus est un prédicateur juif qui a prêché pour des juifs, ça c'est évident. Alors cette Bible grecque, cette Bible des Septante, pour les historiens on dit la Bible d'Alexandrie, parce que c'est plus culturel donc que la Bible des Septante. Cette Bible d'Alexandrie, cette Bible de diaspora, donc, elle est plus large que la Bible des Septante, que la Bible hébraïque. Ce qui reste de la Bible hébraïque, c'est les trois sections, les cinq premiers livres, la loi, la Torah, la loi qui régit le judaïsme judéen à l'époque de Jésus. Telle qu'elle était divisée la Bible des Juifs dans l'Antiquité, il y avait ensuite les livres des prophètes. Et à la fin, donc, ce qu'ils appelaient les autres écrits, formule vague, on trouvait les psaumes, les livres historiques, les livres des rois, donc un peu fourre-tout. Alors, ce que la Bible en grec, la Bible de diaspora, a de supplémentaire, et qu'ont conservé les Bibles chrétiennes, c'est ce qu'on appelle les deutérocanoniques, c'est-à-dire au sens théologique du terme, des livres, pas de seconde catégorie, mais des livres qui ont une valeur fondatrice secondaire. Alors ce sont des livres qui ont été gardés donc, dans les Bibles chrétiennes et pas dans les Bibles juives, mais qui sont écrits par des juifs. Pourquoi ? Parce que nous ne les avons que dans une version grecque, originale ou en traduction. Et il semble que ce soit des raisons culturelles, surtout, qui provoquaient ce refus donc de les inclure dans le canon juif quand celui-ci s'est constitué. Alors, mais les chrétiens les ont gardés, ce qui montre bien donc, où se situe précisément leur matrice, en termes de monothéisme et en termes donc de dogmatique. Et ces livres de deutérocanoniques, donc, ce sont, pour faire simple, c'est à la fois la littérature de sagesse, sagesse du Siracide, de sagesse, livre de la sagesse, donc des modèles de comportement au monde, qui évidemment sont beaucoup plus importants pour des gens qui vivent immergés, des croyants qui vivent immergés dans un milieu, le monde gréco-romain, qui ne partagent pas leur foi. Donc les livres de sagesse, je fais simple, hein, et une littérature de persécution qui peut prendre la forme de roman, on parle de roman biblique pour le livre d'Esther ou le livre de Judith, actuellement vous avez Caravage, donc l'image de Judith, le capitaine Holofernes, ou bien donc de chroniques historiques comme les livres des Maccabées. Et ces livres donc ont en quelque sorte inventé la figure du martyr et la théologie du martyr, et c'est une des raisons certainement pour lesquelles les Bibles chrétiennes les ont gardées. Il y a donc, vous voyez, une Bible plus étendue qui nous montre clairement que la matrice de la pensée chrétienne, de la théologie chrétienne, c'est le judaïsme de diaspora, plus que le judaïsme judéen, celui du temple, ou le judaïsme rabbinique, dont je parlerai ensuite, parce que là, il y a des décalages chronologiques évidents. Alors maintenant, les livres de révélation propres aux chrétiens. Dans une première présentation, donc, je vous les ai indiqués dans l'ordre habituel des Bibles. En quatre sections, en quelque sorte, les évangiles, quatre évangiles, les actes des apôtres, toujours définis comme la première histoire des chrétiens, les chrétiens de la génération apostolique, dont l'auteur est Luc, auteur du troisième évangile. On parle de plus en plus souvent maintenant de Luc-Acte, en pensant donc que le troisième évangile et les actes des apôtres font une unité littéraire, un livre unique. Comme on pense, parce que vous avez fait la Bible juive, que le livre d'Esdras et le livre de Néhémie font aussi une unité littéraire, un livre unique. Donc les évangiles qui transmettent la prédication de Jésus, les actes des apôtres, histoire de la génération apostolique, les épîtres de Paul au premier chef, et ensuite toutes les épîtres apostoliques, je ne donne pas de détails. Et enfin, donc l'Apocalypse, un livre de vision, de révélation par la vision, qui clôture donc ce livre, cette collection donc de livres fondateurs des chrétiens. Alors la présentation, elle n'est pas chronologique, elle n'est pas historique. Et c'est pour ça donc que j'ai souligné les épîtres de Paul, les écrits les plus anciens du Nouveau Testament, donc les textes fondateurs des chrétiens, ce ne sont pas les évangiles, comme on le croit trop souvent, ce sont les épîtres de Paul. Donc, et même à l'intérieur des épîtres de Paul, il n'y a pas non plus de classement chronologique ou historique. Le classement, comme ça soit dans l'Antiquité, est par ordre d'importance matérielle. On commence par la plus longue, l'épître aux Romains, et on finit par la plus courte, l'épître à Philémon. Donc vous voyez que c'est très difficile, il n'y a pas de présentation logique. Il n'y a pas une articulation logique et dogmatique de la révélation chrétienne. Donc on note déjà un écart chronologique conséquent, même à l'échelle de l'Antiquité, pour moi qui suis antiquisante, un écart chronologique conséquent entre la prédication de Jésus, qui meurt, ça c'est sûr, j'y reviens tout à l'heure, mais bon, il y a les 30, une seule catégorie d'écrits datant de la génération de Jésus, les 6 épîtres authentiques de Paul, et puis ensuite, vous voyez que la majorité des textes du Nouveau Testament date des années 70, 80, 90, donc correspondent à la deuxième, troisième génération chrétienne. Décalage évident. Et que même les textes, certains textes intégrés, comme certains épîtres apostoliques, donc la seconde épître de Pierre, la seconde épître aux Thessaloniciens, et peut-être même les pastorales, les épîtres à Timothée et Timothée et Tite sont datés par beaucoup d'exégètes et en général par les historiens des années 110-120, du début du second siècle. Donc un décalage considérable qu'on a admis, je dirais, tardivement, quand véritablement la préoccupation historique, une authenticité historique a animé également les théologiens et les exégètes et qui a amené donc à revoir beaucoup de choses. Tout n'est pas fixé. Peu de temps après la fin de la prédication de Jésus et après sa mort. Il faut plus d'un siècle, presque un siècle, pour que la doctrine, les textes, uniquement les textes fondateurs, donc, se mettent en place. Alors, il y a un décalage encore plus grand. C'est la reconnaissance à ces livres, déjà écrits assez tardivement, la reconnaissance qui leur est faite d'un caractère canonique, c'est-à-dire normatif. Vous avez une petite définition donc du canon. Livre dit inspiré, moi je supprimerai. C'est pas la définition d'Irénée, hein. C'est des livres normatifs, comme l'est la Torah pour les Juifs. Donc ils tiennent de la révélation divine, sans pour autant qu'il y ait forcément des mécanismes d'inspiration de style prophétique. C'est ça qui me fait apothiquer donc dans le livre dit
inspiré.
Donc là, vous voyez, j'ai souligné, non, j'ai pas souligné d'ailleurs, mais maintenant je me demande de le souligner, versant 70-180, définition par Irénée de Lyon d'un canon de vérité. C'est un canon de vérité, donc, c'est la reconnaissance du livre normatif qui désormais donc, vont servir de référence dans les évaluations doctrinales et éthiques d'ailleurs et dans la construction donc, de modèles d'une société chrétienne. Et également, donc, et ce sera bien plus difficile, sur le plan théologique en matière de christologie, qui est Jésus-Christ, et en matière donc, de monothéisme. Donc vous voyez, Irénée de Lyon, ben, on sait qu'il était à Lyon en 177, au moment de la persécution, et qu'il a dû écrire donc, son grand traité à l'extrême fin du IIe siècle, dans les années 180-190. Donc c'est le moment vraiment, on voit que la canonisation, le besoin pour les communautés chrétiennes dans leur diversité, dans leur éparpillement, d'avoir des normes. Seulement, ça s'est posé. Pourquoi donc ? Pour deux raisons qui sont maintenant bien étudiées. La première raison, ça vous étonnera peut-être, elle est anthropologique. On est donc à l'époque d'Irénée, on est à la quatrième génération de christianisation. Et Irénée lui-même le dit. Il dit, moi Irénée, hein, j'ai été formé par Polycarpe, évêque de Smyrne II, qui a été formé sur les genoux de Jean III, lui-même disciple de Jésus IV. Or, pour les, dans la mentalité antique, le passage de la troisième, et dans l'historiographie antique, le passage de la troisième à la quatrième génération représentait un saut qualitatif. La troisième génération, c'est encore se fonder sur le témoignage oculaire, que l'on voit très bien sans cesse répéter dans l'évangile de Jean, le quatrième évangile. J'ai vu, donc j'ai cru. Donc, cette forme de garantie, cette forme d'authentification de l'orthodoxie et de la vérité, elle repose jusqu'à Irénée sur le témoignage oculaire. Puis là, c'est le saut qualitatif, quatrième génération. Ça ne fonctionne plus. On estime que la mémoire collective ou individuelle s'est diluée et qu'elle ne se rapporte plus directement à un témoignage oculaire authentique. Donc, il faut trouver d'autres références normatives. Et c'est à ce moment-là donc, qu'on se met à écrire, ou plutôt à sélectionner les écrits auxquels on va accorder un caractère normatif. Alors, avant, vous voyez, il y a l'impression qu'on a, on parle aujourd'hui de phénomène de canonisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a déjà des écrits privilégiés. Par exemple, le fait qu'on ait retrouvé un fragment de papyrus de l'évangile de Jean, en Égypte, dans un horizon archéologique des années 120, est quand même remarquable, puisque cet évangile a été écrit en Asie mineure dans les années 90-95. Donc s'il est passé si vite de l'Asie mineure jusqu'en Égypte, c'est que déjà on le privilégiait. On sait aussi que des recueils des lettres de Paul commençaient de circuler au début du IIe siècle. On a une liste qu'on appelle le canon de Muratori, un érudit du XVIIIe siècle, qui existe, une liste de textes normatifs qui existe à Rome vers 165-185, même si on ne sait pas qui a composé cette liste. Donc on voit bien le moment où ça se met en place. Donc il y a une raison anthropologique. C'en est fini donc de fonder l'orthodoxie, la doctrine, sur le témoignage oculaire. L'autre raison, qu'elle est historique, c'est le pullulement, si j'ose dire, ce qu'on appelait des hérésies, c'est-à-dire le bouillonnement d'idées qui marque la vie des communautés chrétiennes au IIe siècle. Rien n'est fixé. Jésus est Dieu, mais comment est-il Dieu? Il annonce en voie de l'esprit, mais les textes du Nouveau Testament ne parlent pas de l'esprit. Il y a donc un pullulement, un bouillonnement, une ébullition d'idées qui se met en place, et parmi lesquelles, donc, les apocryphes, vous avez aussi une liste sur les apocryphes, qui vous dit clairement, donc, les textes apocryphes sont des textes qui n'ont pas été retenus dans le canon. Alors, apocryphe, ça ne veut pas dire véritablement caché. Hein. Apocryphe, c'est un mot qui est apparu au XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'on tire de sa cachette. Apocalypse, c'est dévoilé. Apocryphe, c'est sortir de sa cachette. Mais ce qu'on a déduit, une idéologie laïque à partir du siècle des Lumières, c'est que si on les sort de leur cachette, c'est qu'ils avaient été cachés. Donc ils avaient été cachés, ils avaient été occultés par l'Église officielle. Réputation donc qu'ils ont gardée. Ce qu'on y va maintenant, donc, c'est un phénomène culturel très significatif, donc, de cette ébullition d'idées qui donnait lieu à des échanges, des conférences, des controverses. Et donc, cela aussi a rendu, plutôt a permis aussi pratiquement la mise en place d'un canon. Quelles étaient les idées, quels étaient les textes qui résistaient le mieux, qui faisaient un consensus? C'est cela, donc, le phénomène de canonisation, c'est cela. Et c'était souvent donc décidé à la majorité. Les textes qui ont le plus circulé, les textes qui ont fait l'unanimité sur eux, et cela s'est fait donc essentiellement dans la deuxième moitié du IIe siècle. Mais tout n'était pas fini. On voyait ensuite des illustrations. Tout début du IIIe siècle, on a quelques traces donc des premières Bibles canoniques des chrétiens. Par exemple, une présentation synoptique de 4 évangiles par Tatien, qui est un Syrien. Bon, on ne sait pas quels sont ces 4 évangiles, on n'est pas sûr du tout que ce soit les 4 évangiles aujourd'hui canoniques. Et on peut noter aussi, donc, autour de 200, toujours en Égypte, parce que les papyrus, qui avaient une source extraordinaire, hein, donc le papyrus Bodmer qui réunit les 4 évangiles dans leur étape, dans leur ordre actuel et les actes des apôtres, c'est-à-dire le début du Nouveau Testament. Donc là, on voit bien que le canon de l'année 200 est en train de se constituer. Mais donc tout n'était pas fini, parce que déterminer la liste, des textes canoniques est une chose, fixer le texte, problème qui se pose donc pour tous les textes religieux d'Antiquité, ça se pose beaucoup pour, ça se pose pour le Coran, ça se pose pour la Bible hébraïque avant la tradition masorétique, et ça se pose aussi donc pour les textes de la Bible chrétienne. La copie manuscrite ne permet pas de fixer le texte avant donc les grands manuscrits des ateliers impériaux du IVe siècle. Donc il y a de nombreuses variantes, sans compter donc les traductions en latin, en syriaque, qui interviendront ici. Donc le texte n'est pas fixé, ce qui explique donc que la connexion elle non plus n'est pas stabilisée, comme je vous l'ai indiqué, comme nous l'avons rappelé donc tout à l'heure. L'Apocalypse est le livre avec la deuxième épître de mis sous le nom de Pierre et le texte qui a été intégré, reconnu normatif le plus tardivement, donc au milieu du IIIe siècle. Et jusque-là, donc, c'était un autre. Il y avait un exemple de texte de révélation, de texte visionnaire, mais c'était une œuvre écrite à Rome par un certain Hermas, H-E-R-M-A-S, qui est intitulé donc le pasteur. Donc on fait passer à la place d'une apocalypse, d'une littérature, d'une révélation composée à Rome, une révélation donc composée en Asie mineure, l'apocalypse johannique. Évidemment, ça n'a pas le même sens. Donc ça explique qu'il y a encore eu des discussions, des réorganisations du canon jusqu'au milieu du IIIe siècle. Encore une fois, donc, pour fixer le texte, le texte est définitivement fixé par la ponctuation et par les titres et sous-titres qui fixent un découpage et qui donc fixent une interprétation théologique. Et ça n'est pas attesté, donc avant l'époque de Constantin, les grands manuscrits donc écrits aussi en capital, ce qui était beaucoup plus lisible, ce qu'on appelle des onciaux, O-N-C-I-A-U-X. Donc, le premier connu, et d'ailleurs assez complet, c'est le Codex Vaticanus, très célèbre, et on pense que c'est une colonne impériale donc, de Constantin, dans le cours donc, de sa conversion progressive vers 315. Un petit détail pour fixer les choses, vous ne pouvez pas rendez-vous compte combien la ponctuation change les choses. J'ai écrit un article, puisque je suis un peu une spécialiste de Paul, comme l'a rappelé Xavier, j'ai écrit un article dans une revue tout à fait laïque, universitaire, etc., intitulé « La virgule antisémite ». Peut-être avez-vous lu, ou prédit dans vos esprits, que Paul est misogyne et antisémite. Ça fait partie donc, de ce qu'on raconte toujours. Et on s'appuie sur la plus ancienne des épîtres qu'on ait gardées de lui, la première épître aux Thessaloniciens. Donc, le plus ancien, donc ses fondateurs. Donc, l'antisémitisme est fondateur et de la pensée de Paul et du christianisme en général. Eh bien, tout dépend donc où on place la virgule quand on invoque quand Paul, effectivement, invoque la malédiction, la colère de Dieu ce qui est un thème omniprésent de la Bible hébraïque, les inscriptions funéraires d'Égypte et tout ce que vous voulez. Tout est pas en place à bien. Donc, vous voyez que, et c'est pareil pour le Coran, cette question-là, donc, les textes n'ont pu se fixer que très tardivement, pas immédiatement. Et ça ajoute encore, donc, aux possibilités d'interprétation qui de ce fait, s'ouvraient au fur et à mesure qu'ils étaient lus en assemblée, qu'ils étaient travaillés. On est très loin, vous voyez, du texte prédéterminé qui dit les débuts, donc voilà, les choses sont comme ça, et vous n'en déviez pas, sinon vous êtes des hérétiques. C'est le mouvement tout à fait différent, donc je dirais de l'entonnoir, d'une multitude d'idées, d'hypothèses, d'interprétations à la base, donc remonte durant tous ces siècles, donc un mouvement vers quelques livres, quelques textes qui font l'unanimité et qui vont acquérir donc ce caractère normatif. Alors pour faire de l'histoire, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tenir compte donc des autres sources, puisque je le rappelle, je tiens toujours à le rappeler, donc la méthode historique, c'est de confronter les sources, c'est de confronter les documents. Je sais qu'il y a des juristes parmi vous, pour les juristes testis unus, testis nullus, c'est ça? Pour les historiens, c'est pareil. Donc il faut croiser les documents. Alors, en général, les modernes aiment bien se dire que s'il y a une preuve d'authenticité, elle passe par l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est du matériel, c'est du solide, c'est du concret, c'est indiscutable. Malheureusement, donc, l'archéologie chrétienne, je dirais la visibilité des chrétiens qui passe par le témoignage archéologique est très tardive. Les chrétiens, je développerai plutôt ma deuxième partie, mais les chrétiens n'ont pas de visibilité archéologique avant le début du IIIe siècle. Donc là, on voit effectivement des communautés organisées, responsables, ayant une pensée, des moyens d'action, mais on saisit plus difficilement comment ils sont parvenus. Donc, les sources sont surtout textuelles, et c'est le développement donc de la littérature chrétienne, avec des formes d'expression très diverses, cette diversité d'expression qui est le sujet, plutôt l'objet de la recherche historique actuelle, pour nous aider donc à préciser l'identité chrétienne, ce qu'a été donc la première identité chrétienne. Comment se sont identifiés donc les chrétiens dans la société et dans les temps antiques. Alors, bref retour sur ces autres sources textuelles chrétiennes. Les pères de l'Église, ce sont les théologiens. Et donc, qui font la théologie fondamentale. Ce qui nous montre bien à nouveau donc, que cette théologie fondamentale n'est pas du tout déterminée au moment donc, où le christianisme se met en place. Donc, les pères de l'Église, les théologiens, et les plus, ça commence donc avec Justin, connu du IIe siècle, et ça se termine donc par Augustin, les pères cappadociens, Hilaire de Poitiers en France, donc au tournant du IVe et du Ve siècle. Là encore, vous avez un mouvement donc d'une certaine durée. Les apologies, les pères de l'Église font de la théologie fondamentale. Les apologies sont plutôt font de l'éthique. Ils traitent des rapports des chrétiens au monde, mais toujours à la même manière, au monde extérieur, au monde séculier, en posant toujours la même interrogation, jusqu'où peut-on aller dans l'intégration, dans l'assimilation au monde séculier. Troisième catégorie, donc, les apocryphes. On en a déjà un petit peu parlé. Alors, il représente une source pour l'historien, en montrant la diversité des sensibilités chrétiennes. Et c'est ce qui conduit maintenant donc à considérer le christianisme comme une religion plurielle, une religion marquée par la pluralité, en se posant sans cesse la question, qu'est-ce que c'était qu'être chrétien dans tel lieu ou à telle époque. Et j'ai ajouté donc les écrits de controverse, dont les plus travaillés actuellement donc sont les écrits de controverse avec le judaïsme. Donc, vous voyez donc que tout reste à faire, tout se construit. On a très peu, pas du tout, d'éléments prédéterminés. Dans un deuxième temps, donc, je voudrais maintenant revenir sur le questionnement actuel de ces textes fondateurs, tels qu'ils se pratiquent dans l'historiographie actuelle. Alors, les premières interrogations portent sur le fondateur, sur Jésus lui-même, qui fait l'objet donc d'une approche historique particulière parce que son historicité est sans cesse remise en cause. Bon, on va retomber sur la question du fondateur. Comme je disais en commençant, donc, le christianisme résulte de la prédication d'un juif, Jésus, dans le cœur du pays juif, la Judée. Mais la question de savoir si c'est bien la prédication de Jésus qui est devenue donc l'origine de la religion nouvelle, universelle, qui s'est diffusée dans le monde antique et qu'on appelle le christianisme. Donc, le fond de l'histoire, par exemple, comme historienne, je ne commence jamais un cours sur l'histoire du christianisme par la vie de Jésus. Je la commence par l'acte de foi que les apôtres et que ses disciples ont posé devant un tombeau vide. C'est cela la connaissance du christianisme. Et comme ça, l'historien laisse ouvert le rapport de la religion nouvelle qui se met en place à ce moment-là, donc à partir des années 30, avec la prédication de Jésus. Où est la question? C'est que Jésus n'a rien écrit. Vous savez aussi bien que même si apparemment il savait écrire, puisque dans une scène de l'évangile de Jean, donc comme font les philosophes grecs, il trace des signes dans le sol. Donc, il savait, il écrivait. On pense aussi qu'il parlait un peu de grec, mais il n'a pas laissé d'écrit. D'autre part, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, et on les a utilisés comme tel, les évangiles ne sont pas une vie de Jésus, ne sont pas une biographie. C'est l'histoire d'une révélation. C'est révélé que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur attendu par Israël. Ce qui suppose donc toutes sortes de mécanismes d'écriture qu'on étudie maintenant par les méthodes qu'on appelle de l'intertextualité. Par exemple, une des lignes, c'est de montrer combien les évangélistes présente Jésus comme le nouvel Élie, un prophète sauveur thaumaturge, en reprenant donc des miracles, multiplication des pains, résurrection d'enfants morts par exemple, qui dans la Bible hébraïque, dans le livre des prophètes, sont attribués à Élie. Donc il y a un mode d'écriture, non seulement il y a une interprétation théologique qui oriente toute l'histoire, mais encore, donc, il y a l'utilisation d'un mode d'écriture théologique, reprenant donc des éléments de la Bible hébraïque. Et c'est ce qu'il dit encore une fois, donc l'exégèse de type dans l'intertextualité, qui est très très, comment dire, très en vogue, très très répandue, actuellement. Donc, on ne balaise non plus les évangiles bout à bout, à cause de leurs contradictions internes, qui ont été relevées donc à partir du XVIIIe siècle. Si Jésus est né sous le règne d'Hérode, ce que dit l'évangile de Luc, il est né au plus tard en 5 avant notre ère, mais s'il est né à l'époque du recensement de Quirinus, comme écrit l'évangile de Luc, il est né en 6 de notre ère. Donc il y a un décalage de 10 ans. Tout cela pour dire, donc, c'est très très exemple, qu'on ne peut pas mettre les évangiles bout à bout. Cela étant, à part par quelques tempéraments comme Michel Onfray récemment dans son livre sur décadence, l'historicité de Jésus n'est plus remise en doute actuellement, même pas dans les programmes officiels de l'enseignement secondaire, je dirais. Mais les meilleurs éléments, les meilleures preuves de l'historicité de Jésus, on ne les trouve pas dans les textes chrétiens, on les trouve dans les sources extérieures. Pour tous les historiens aujourd'hui agnostiques, juifs ou chrétiens, le meilleur témoignage, la meilleure preuve de l'historicité de Jésus, c'est qu'on en a parlé, on en a parlé dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle les sources extérieures, des historiens juifs presque contemporains, comme Flavius Joseph, des historiens latins romains du début du IIe siècle, comme Suétone et Tacite, mais qui ont rapporté donc des événements qui se situaient au début du premier siècle. Donc, on a parlé de Jésus, il est mémorable, en termes de mémoire historique, il est mémorable. Et surtout, donc, on en a parlé dans les mêmes termes. Jésus est toujours présenté dans les sources extérieures comme un prédicateur renommé, réputé, et comme un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles. Et paradoxalement, je dirais, vous me direz, les miracles, ce n'est pas un événement historique. Les miracles, c'est de l'ordre du ressenti. Et pourtant, donc, c'est les miracles qui, d'une certaine façon, intègrent aussi Jésus dans l'histoire, parce qu'il se démarque justement des miracles bibliques. Si on voulait présenter Jésus comme la nouvelle Élie, on lui ferait faire les mêmes miracles, absolument les mêmes miracles qu'Élie. Or, il y en a d'autres. Les exorcismes, par exemple, Jésus fait beaucoup d'exorcismes, chassait les démons. Mais c'était interdit, enfin c'était pas permis donc dans le judaïsme. Et puis le nombre de morts apparentes, le nombre de résurrections, réanimations, on ne sait jamais trop, sauf pour Lazare, en particulier des enfants dans les évangiles, renvoie donc à une thématique très actuelle de l'époque de Jésus et des débuts du christianisme, la question donc qu'il se posait, ce que se posaient les médecins comme Galien devant ce qu'ils appelaient donc la mort apparente. Et c'est pour ça donc que dans l'excellent volume qui vient de sortir dans la Pléiade, sur les premiers écrits chrétiens, on a intégré les sources extérieures. Parce que ces témoignages, donc juifs, romains, grecs aussi, j'insiste pas là-dessus, mais il y a aussi des témoignages de notables grecs. Donc, c'est ce croisement donc, entre les sources évangéliques d'une part et les sources écrites d'autre part qui permettent d'établir l'historicité de Jésus. Donc, à partir de là, ça implique et ça montre qu'on peut lire les évangiles à deux niveaux. Ce qui fait leur unité du début jusqu'à la fin, elle est théologique. Les évangiles donc, font une histoire théologique, révéler le Messie dans ce prédicateur qui s'appelait Jésus. Mais en même temps, donc, cette prédication elle est inscrite dans l'histoire même l'histoire médicale, puisque je viens de parler des miracles et de la mort apparente. Et donc, cela est montré par la confrontation du point de caractère documentaire avec les sources extérieures. Et cette historicité donc, du fondateur, de Jésus, c'est surtout, donc, oui, on pense que ce qui a servi de relais pour enraciner la prédication, les discours et les miracles de Jésus, c'est des recueils intermédiaires qui ont circulé avant donc d'être repris dans cette interprétation théologique donc qui est celle des évangiles. Alors, on sait bien maintenant qu'il y avait des recueils de dits de Jésus, des ITS, hein, ce qu'a dit Jésus, parce que nous avons un apocryphe, ce qu'on appelle l'évangile de Thomas, qui a aucun caractère narratif, qui ne raconte pas des histoires sur Jésus, mais qui est donc une liste de paroles de Jésus, de dits de Jésus. Donc on pense qu'il y avait à la fois des recueils de dits, de paroles de Jésus, et des recueils de signes, au sens que donne l'évangile de Jean, donc des miracles, des listes de miracles, qui circulaient donc dans un stade intermédiaire de la construction donc de la mémoire de Jésus. Donc, il faut lire les évangiles à deux niveaux, comme une histoire théologique, révélation du Messie, et inscrite donc dans les réalités. Et ce qui apparaît maintenant de plus mémorable, qui enracine véritablement Jésus dans l'histoire, c'est sa mort. Sa mort dont ont parlé les Romains, dont ont parlé les Grecs, et sa mort qui explicité en un sens dans les évangiles par une preuve documentaire qui est l'écriteau de la croix, qui nous dit donc pourquoi Jésus a été condamné. Il a été condamné comme roi des Juifs, si vous vous en souvenez. Roi des Juifs, ça, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une figure allégorique. Roi des Juifs, c'était le titre que les Romains avaient donné à Hérode, le dernier souverain d'un État juif indépendant. Et ça montre bien, donc, que c'est comme aspirant à la royauté que Jésus a été condamné pour une cause politique. Je ne dis pas qu'il s'est présenté comme un aspirant à la royauté, mais il a été perçu comme cela par les Juifs, et c'est ainsi donc que les Juifs qui lui étaient hostiles, l'ont transmis aux Romains. Devant la magistrat romain comme Pilate, il tombait, aspiré à la royauté, tombait sous inculpation de lèse-majesté et de trahison. Et c'était la peine de mort, donc, qui sanctionnait, qui était la pénalité adéquate. Donc c'est aussi une chose qui est devenue claire, que Jésus a été condamné par Rome, par le pouvoir romain, certainement comme aspirant à la royauté, même si c'est les Juifs qui l'ont dénoncé, les Juifs qui lui étaient hostiles qui l'ont dénoncé et qui ont monté l'affaire. Deuxième révision, et qui se met en place de façon très consensuelle entre les Juifs et les chrétiens, enfin l'historiographie juive et chrétienne et actuellement, c'est justement les relations entre juifs et chrétiens. On a, depuis des millénaires, je dirais depuis la fin de l'Antiquité, jusqu'au Concile Vatican II, c'est-à-dire l'année 1965, c'est bien ça, on a vécu sur l'idée que le christianisme s'était séparé immédiatement, donc, du judaïsme en reniant d'une certaine façon donc ses origines. Donc une rupture rapide, quasi immédiate, brutale et radicale. Et qu'on lisait dans l'historiographie chrétienne de deux façons. ou bien on l'attribue à Paul. Vous avez peut-être aussi cela qui traîne dans vos mémoires. Paul aurait trahi le message de Jésus. Jésus était un prédicateur juif qui prêchait pour les juifs. C'est le thème, par exemple, du roman d'Emmanuel Carrère. Donc, Jésus avait prêché pour les juifs. Mais Paul, reprenant la figure, cette figure de fondateur, a dénaturé son évangile. On a fait une religion universelle à l'usage, à l'attention donc, des Grecs et des Romains, et a trahi donc l'évangile de Jésus. Donc, c'est une problématique qui a couru jusqu'aux années 80-90. Si on parle de religion chrétienne, le véritable fondateur, l'inventeur de la religion chrétienne, c'est pas Jésus qui prêchait en juif pour les juifs, c'est Paul qui a complètement donc réinterprété son message. L'autre argument avancé donc par la géographie chrétienne, jusque une fois à Vatican II, c'est des synchronismes. Deux catastrophes, vous savez certainement, ont frappé donc les Juifs au 1er et 2e siècle. La destruction du Temple après la défaite contre Rome en 70, et l'échec donc de la dernière insurrection des Juifs de Judée contre Rome, l'insurrection de Bar Kokhba en 135. Et on a construit donc une interprétation de ces événements, on en a tiré des synchronismes, en disant les chrétiens ont vu dans ces événements dramatiques le châtiment divin contre celui, contre le peuple qui avait mis le Messie à mort, la mort de Jésus, le châtiment de la mort de Jésus, le peuple était ici. Je vous rappelle aussi que l'appellation de peuple déicide a subsisté dans la liturgie catholique du Vendredi Saint jusqu'au Concile Vatican II. Et que donc des événements dramatiques que les chrétiens interprètent comme les expressions de la colère de Dieu contre le peuple déicide. Et à chaque fois, donc, cela déclenche une expansion du christianisme. Et on met donc en synchronisme la destruction du Temple en 70 et la rédaction de la majorité des textes conservés dans le Nouveau Testament entre 70 et 90. Et l'échec de l'insurrection de Bar Kokhba, donc en 135, avec le début donc de la théologie et de l'éthique chrétienne. Justin, donc, le premier, le plus ancien des pères de l'Église, est celui aussi qui écrit donc un dialogue contre les Juifs, qui commence donc à polémiquer et à montrer la différence, à polémiquer avec les Juifs. De leur côté, donc, jusqu'à une date récente, l'historiographie juive acceptait aussi cette interprétation, cette vision des choses, en présentant donc ce que j'appellerais la théorie du nid de coucou. Vous savez que le coucou, donc, met ses œufs dans le nid des autres. Et toute une historiographie juive, jusqu'aux années 70, donc, a défendu l'idée que finalement les chrétiens s'étaient installés dans le nid du judaïsme, en profitant des malheurs historiques du judaïsme, avaient repris leur texte, leur doctrine, leur texte fondateur, c'est la récupération donc de la Bible hébraïque, et s'étaient installés donc là où il y avait des juifs, puisque finalement les circuits de la mission chrétienne suivent assez bien le circuit de la diaspora. Enfin, donc, troisième élément, on parlait de rupture brutale et d'une réutilisation donc de la Bible des Juifs tout en reniant le judaïsme. Et ce qui a fait bouger les choses, c'est justement donc après Vatican II qui a réintégrer l'importance de la matrice juive dans le christianisme, avec l'éclairage, les juifs sont nos frères aînés, ça a libéré donc les travaux des historiens dans les deux parties, historiographie, historien du judaïsme et historien du christianisme, et on s'est mis donc à pratiquer des enquêtes sur le terrain, dont les conclusions ont été assez bouleversantes. D'une part, on ne peut pas parler d'un déclin des Juifs au moment dont on se met en place le christianisme, et donc en quelque sorte un système de vase communicant. On ne peut pas donc parler de cela parce que les malheurs des Juifs n'ont frappé que les Juifs de Judée. Mais tout à l'heure, j'ai insisté en présentant les textes chrétiens en disant leur matrice juive, c'est celle de la Bible grecque, c'est celle du judaïsme et de la diaspora. Et la diaspora, donc, à travers des synagogues monumentales, à travers une expression littéraire très importante, l'apogée du judaïsme de diaspora, c'est le deuxième, troisième, quatrième siècle, au moment où le christianisme se met en place. Donc il n'y a pas un système de dépossession, prendre aux juifs, au judaïsme pour installer le christianisme. Et ces études sur le terrain montrent au contraire une évolution parallèle qu'a bien mis en évidence dans la bibliographie, je l'ai citée, donc Boyarine, qui, dans la partition du judaïsme du futur, Boyarine est un rabbin et un historien du judaïsme américain, et qui, dans son livre traduit en français sous le titre « La partition du judaïsme et du christianisme », montre donc non pas une séparation précoce et radicale, mais au contraire une évolution parallèle des communautés juives et chrétiennes, toutes proches dans les grandes villes du monde gréco-romain, et avec donc une évolution qui montre des caractères semblables, comme l'exaltation du martyr, par exemple, ou la mise en place d'une articulation orthodoxie et hérésie. Et ce qu'a mis en évidence aussi donc, les thèses de Boyarine, c'est qu'on pensait, à la fois du côté des chrétiens, que la destruction du temple en 70 avait immédiatement mis en place le judaïsme rabbinique, qui lui, effectivement, se distingue à son tour très fortement du christianisme, et même par certains côtés aussi hostile au christianisme. Mais c'était oublié que les livres fondateurs du judaïsme rabbinique, qui dirigent actuellement toujours les communautés juives, les Talmuds, les deux Talmuds de Babylone et de Jérusalem, sont du 5e ou du 6e siècle. Donc là encore, c'est faire la part du décalage chronologique. Et donc, l'idée que défendent aujourd'hui les historiens du judaïsme, c'est que Jésus a prêché, certes, dans le cadre du judaïsme du temple, du judaïsme sacerdotal, déterminé par la loi et l'autorité des autorités du temple, qu'ensuite donc il y a eu cette phase de judaïsme synagogal, de judaïsme diasporique, brillant diaspora, où les communautés chrétiennes et juives, la synagogue et l'église, au sens église locale, se sont trouvés un rapport de proximité dans les grandes villes du monde gréco-romain, avec des échanges qu'on met maintenant très bien en évidence. Par exemple, ce qu'on identifie comme les fêtes partagées, les chrétiens qui allaient célébrer Pâques avec les juifs. Et également par des faits, lors des grandes persécutions impériales du milieu du IIIe siècle, les synagogues ont proposé aux chrétiens de les réintégrer pour les protéger donc de la persécution. Donc vous voyez des interactions dues à des phénomènes de proximité et non pas donc une séparation brutale et radicale. Maintenant, donc, on parle de distinction, distinction progressive, conduisant progressivement à une séparation. Voyez donc que dans tous les cas, on met toujours en évidence des progressions, des dynamiques, et jamais on a abandonné cette idée de prédéterminer, créant donc des différences et des séparations radicales dès le début parce qu'il y aurait eu des prédéterminés. Troisième piste donc de révision, on ne fait plus aujourd'hui l'histoire de l'Église, on ne fait plus aujourd'hui l'histoire du christianisme comme une pensée, parce que justement il y a trop de fixisme dans cette idée de faire l'histoire d'une pensée, on fait l'histoire d'une christianisation, on fait l'histoire d'une dynamique, on fait l'histoire d'un progrès. Et cela, donc, cette christianisation, comment faut-il la voir ? Non seulement, donc, en termes d'extension géographique, ce qui est assez facile à faire, et ça, je n'insisterai pas, il y a quand même envie d'avoir des preuves archéologiques, mais également en termes, donc, de construction unitaire, à partir d'identifications chrétiennes extrêmement diversifiées au départ. Et là, évidemment, donc, dans cette dynamique de construction unitaire à partir d'identités plurielles, la constitution d'un canon est très importante. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la configuration d'un christianisme de petit. Il n'y a pas d'église au singulier durant toute cette période. L'église au singulier, c'est un idéal, un horizon. Il n'y a que des églises particulières et qu'on ne peut même pas identifier, quand on regarde toutes les sources, avec une église par cité, comme le disait saint Ignace, pour une église par cité et un évêque par église, comme ça tout le monde sera bien, les joies seront bien gardées. Mais il faut attendre donc le 4e siècle, l'époque de Constantin, pour parvenir à cela. Donc, quand on combine toutes les sources, y compris les actes des martyrs, on voit plutôt donc fonctionner une configuration de très petits groupes, des groupes de 5-6 chrétiens, très solidaires, autour de leur catéchisme, celui qui les avait convertis. Donc une configuration de petits groupes, ce qui les protège d'ailleurs contre les persécutions de masse. Les rafles étaient impossibles, même à l'époque des persécutions générales déterminées par une politique impériale à partir de 250, les groupes de condamnés, c'est toujours des petits groupes de 5, 6, 12 personnes. Sauf quelques cas d'exception, comme celui de Lyon. Donc, une configuration de petits groupes, ce qui protège, ce qui a amené aussi à mettre en évidence un autre mythe, le mythe des catacombes, des chrétiens cachés dans des cimetières souterrains. Et c'est une vision des anachroniques des choses. Donc, une configuration de christianisme de petits groupes qui ont pu subsister parce qu'ils ont fonctionné dans un cadre privé, celui des maisonnées. Alors, on voit ça très bien dans les textes les plus anciens, les épîtres de Paul, ce qu'ont montré des témoignages parallèles, des témoignages des Grecs, l'archéologie de la maison des chrétiens à Doureuropos, manière archéologique et quelques autres, donc, c'est que cette organisation donc d'églises de maisonnées, de communautés donc autour d'un chef de famille dans l'espace d'une maison, a subsisté jusqu'au IIIe siècle. Et le film qui est sorti donc en mai dernier sur Paul Appeau, mais très bien sans évidence, donc à travers une petite communauté paulinienne, dirigée par un couple ami de Paul, et appuyé à ses prisquillas, donc à Rome. Donc à la fois, l'organisation maisonnée, donc un tout petit groupe chrétien, dans un espace privé, protège contre les répressions, soit ponctuelles, soit générales, un peu plus tard, et constitue aussi un pôle de rayonnement par proximité. Alors je réalise maintenant, ce christianisme pluriel, si différent, si éparpillé, on parle aussi du christianisme diasporique actuellement, comment construit-il son unité? Comment ce doctrinal, sur le plan doctrinal, on l'a vu par le canon, sur le plan ecclésial maintenant, pour rassembler tous ces petits groupes, on voit bien se mettre en place donc aujourd'hui une église des réseaux. Des réseaux qui sont alimentés donc par trois facteurs, trois dynamiques. La première, vous pensez bien, c'est la dynamique de l'écrit. Les chrétiens s'écrivent beaucoup, échangent des lettres, échangent des livres. Ceux qui ont inventé le petit livre carnet, le TEDx, qui circulait donc plus facilement que les rouleaux de papyrus ou les rouleaux de peau traditionnels. Donc ces réseaux, ce sont d'abord des réseaux de l'écrit. J'insiste pas. On y pense moins, ce sont aussi des réseaux de l'argent, et ça remonte à Paul. Faire des collectes, donc, et faire circuler l'argent entre les différentes communautés chrétiennes pour aider celles en difficulté, puis alors s'assurer des convoyages, s'assurer des voyages, et ça crée donc une circulation d'une communauté à une autre communauté. Et finalement, donc, le réseau, mettre les communautés chrétiennes en réseau, ça a été, je n'ose pas dire une politique, mais disons une décision, une forme de pastorale aussi des évêques qui ont développé donc les pratiques de s'écrire, les correspondances épiscopales, et également les pratiques de l'hospitalité et des voyages. Et s'est mis en place, donc, à la fin du deuxième, au début du troisième siècle, un réseau épiscopal. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'autorité unique, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prééminence romaine, mais il y a une association, donc, à travers ce réseau épiscopal, il y a une association, c'est ce réseau épiscopal qui assure la communion, en même temps que la communication entre ces communautés, donc, dispersées. Et de ces églises qui se constituent en réseau, c'est la première forme de l'unité chrétienne, va sortir une institution qui redevient très à la mode aujourd'hui, celle du synode. Ça va être donc le principe, la dynamique d'unification institutionnelle donc, entre toutes ces églises particulières. Alors la pratique du synode, donc, c'est la conférence épiscopale qui peut se réunir à plusieurs échelles, micro-régionales. Alors, aussi une précision de lexique. Dans l'Antiquité, synode et concile, c'est la même chose. Il n'y a aucun degré d'importance, aucune inégalité d'importance. C'est seulement une question de langue. La conférence épiscopale est dite synode en grec et concile donc en latin. Mais c'est uniquement une question de langue. Donc, ces conférences épiscopales, synode en grec ou concile en latin, elles sont souvent micro-régionales parce qu'elles réunissent de 10 à 20 évêques, c'est quand même pas beaucoup. Et ce sont des personnalités donc comme l'évêque Cyprien de Carthage dans les années 250 donc, qui vont en faire, parce que c'était plus difficile aussi en termes d'infrastructure, qui vont en faire donc des institutions plus étendues et donc plus représentatives à l'échelle de la province. Par exemple, Cyprien, évêque de Carthage, avait pris l'habitude de réunir tous les évêques de l'ensemble de l'Afrique du Nord, donc la province romaine d'Afrique, l'actuelle Tunisie, donc une ou deux fois par an. Donc, c'est lié aussi à la canonisation, c'est lié aussi à essayer de mettre fin aux dissidences de l'Église, dans les églises. Donc, à construire l'unité, c'est la dernière phase de la construction de l'unité que l'institution synodale. Et dans cette dynamique progressive, je vais achever donc par ce par quoi je pensais peut-être que j'aurais dû commencer, c'est-à-dire l'identification doctrinale et théologique donc du christianisme comme un monothéisme trinitaire, un monothéisme qui articule Dieu, le principe divin en trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pas immédiat. Cette religion nouvelle, on l'appelait chrétien, on l'a identifié par rapport au Christ. Son fondateur est celui qu'elle prêchait comme le sauveur de l'humanité. Chrétien, il y a de Christos, bien entendu, c'est ceux de Christ. Et cette terminologie, donc cette désignation plutôt, apparaît dans les années 40, très tôt. Donc, il y a le Christ. Moi qui fais une histoire des persécutions, j'ai été frappée donc par l'inconnu des premières confessions de foi que font les martyrs jusqu'au IIIe siècle. Je crois en un seul Dieu créateur du monde, affirmation monothéisme qui était celle des Juifs. Je suis de ceux du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? J'appartiens à l'Église. Donc à la communauté chrétienne locale. Donc c'est extrêmement sommaire, c'est extrêmement laconique. On croit que le Christ est Dieu, on n'a jamais remis en doute sa divinité. Et aussi, il y a une découverte intéressante, je vais finir, actuellement, le lieu du culte chrétien le plus ancien que l'on connaisse, c'est un local de soldats chrétiens dans le camp militaire de Megiddo, légionnaire, donc le camp romain légionnaire de Megiddo, en Israël, donc, qui a été fouillé récemment. Et qui montre une table eucharistique assez émouvante, dédiée à Iésos, Jésus, personnage historique, Christos, le Christ, le Sauveur, Théos, Dieu. Donc, la divinité de Jésus n'est pas niée, n'est jamais niée et toujours professée. Mais comment était-il Dieu? Était-il égal au Père ou subordonné au Père? Était-il Dieu par adoption? Était-il Dieu par filiation? Avait-il été créé? N'a-t-il pas été créé? Tous ces problèmes restaient en suspens et suscitent donc toutes ces expressions diverses de sensibilité chrétienne, qu'on appellera les hérésies. Et c'est cela, donc, qui n'est pas résolu quand le christianisme devient religion d'État et religion d'Empire avec Constantin, et que Constantin, donc, veut lui imposer son unité. Et là, donc, on arrive un troisième degré dans l'échelle de ces synodes, conciles qui vont créer donc l'unité doctrinale avec les quatre grands conciles qu'on appelait autrefois œcuméniques mais qu'on préfère dire maintenant généraux parce qu'ils n'ont jamais représenté donc l'ensemble de la terre habitée. Au cours donc du 4e et du début du 5e siècle, ce qu'on appelle le siècle des conciles généraux, Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 431 et Chalcédoine en 451. Le concile de Nicée donc va établir la consubstantialité, donc une identité de substance entre Dieu le Père et le Christ son Fils. C'est la formule donc, qui est dite dans toutes les églises chrétiennes à chaque messe du dimanche. Cette consubstantialité homoousios en Grèce. Le concile de Constantinople va rétablir, va travailler la théologie de l'Esprit Saint. Et donc c'est le concile de Constantinople qui va vraiment poser le monothéisme chrétien ou le monothéisme trinitaire, celui de Nicée ayant réglé, si j'ose dire, le problème du Fils. Celui d'Éphèse pose Marie comme mère de Dieu et non pas mère du Christ. Et là, ça fait travailler sur l'incarnation. Jésus est Dieu dès qu'il est conçu et qu'il naît de sa mère. Et enfin, donc, Chalcédoine, le concile de Chalcédoine en 451, traite d'une question christologique qui était en suspens donc, depuis Nicée, qui n'avait pas réglé la question du concile de Nicée. Comment s'articule, une question de christologie, comment s'articule le divin et l'humain dans le Christ? Et là s'opposent donc deux écoles de théologie, c'est très concret là. L'un défendant ce qu'on appelle aujourd'hui une christologie haute, c'est l'école d'Alexandrie, qui était très marquée par la philosophie grecque, et qui défend donc l'idée que la divinité prime dans le Christ, et qu'en fait, il faut lire son humanité, son incarnation, à partir de cette divinité. Et puis au contraire, l'autre école, l'école d'Antioche, en Syrie, que vous trouvez maintenant donc représenté dans le christianisme des églises d'Orient, et qui pose donc cette définition que la nature humaine du Christ est d'apparence sous la nature divine et arrive donc à la conceptualisation de deux natures, nature humaine et nature divine, unis dans une seule personne. Donc, il faudra attendre 451, le concile de Chalcédoine, pour que la nouveauté essentielle du christianisme sur le plan théologique, comme théologie et comme religion, un monothéisme trinitaire, construit donc sur un système relationnel d'un Dieu en trois personnes, puisse être décidément, véritablement formulé. Vous voyez donc qu'on a bien fait une construction lente, progressive, qui ne s'est pas faite sans contestation, opposition et quelquefois séparation. Voilà, donc je vous remercie de votre patience. Je vous remercie.